Il y a des groupes ethniques qui semblent avoir davantage de talent qu'ont d'autres dans certaines tâches, occupations ou pour certains sports. Les Allemands sont peut-être les plus doués pour tout ce qui est mécanique. Les Éthiopiens et les Kenyans, suivis des Marocains, sont difficiles à battre à la course de fond. Les Français ont inventé la guillotine et la langue de bois, mais les nazis ont coupé davantage de têtes que la Révolution, et pour ce qui est de la langue de proie, en fait, encore mieux que les politiciens français. S'il y a une activité où les Israélites étaient particulièrement doués, c'est faire la fête sans aucun écart de conduite. Et pour cause, c'est l'Éternel qui leur a enseigné comment se réjouir. Le chapitre 23 du livre du Lévitique traite plusieurs des nombreuses fêtes qui ponctuent la vie de la nation d'Israël. Celles-ci ont pratiquement toute une dimension prophétique. La Pâque juive et la fête des pains sans levain qui la suivait formaient un ensemble qui durait du 14e jour au soir du premier mois de l'année religieuse, de Abib ou Nisan, au 21e jour de ce même mois. Cela fait donc 7 jours entiers étalés sur 8 jours, parce que les jours juifs commencent au coucher du soleil, et pas le matin comme pour nous. Le 15e et 21e jour étaient assimilés à des sabbats, donc à respecter impérativement. Le 16e jour était la célébration des premiers fruits de la nouvelle récolte, une fête au milieu d'une fête, en signe de reconnaissance pour les bénédictions divines sur la moisson qui s'annonce et pour l'orge qui vient tout juste d'être engrangée. Le peuple d'Israël apportait une gerbe de cette première récolte céréalière au grand prêtre. Celui-ci faisait alors un geste rituel de présentation devant l'Éternel. La valeur prophétique de cette fête des premiers fruits est importante au vu de l'enseignement du Nouveau Testament, car cette fête annonce la résurrection de Jésus-Christ, ce que confirme l'apôtre Paul que je cite. Le Christ est bien revenu à la vie, et, comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien terminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Comme je l'ai déjà dit, la fête des premiers fruits prophétise la résurrection du Christ. Mais ce que je n'ai pas encore dit est qu'elle le fait de deux manières différentes. Premièrement donc, Jésus est le premier fruit, pour ainsi dire, et les prémices de la résurrection du peuple de Dieu, autant de l'ancienne alliance que de la nouvelle, et donc de la mienne, et j'espère de la vôtre. La résurrection du Seigneur est la garantie de la vie éternelle pour tous ceux qui lui font confiance. D'autre part, et deuxièmement, Jésus a été mis à mort vendredi, qui était le 14e jour du premier mois de l'année religieuse, quelques heures avant que ne débute la Pâque juive. Le lendemain, le samedi, était le premier jour de la fête des pains sans levain. Le surlendemain, un dimanche, Jésus est ressuscité et le hasard de Dieu l'a fait tomber le jour de la fête des premiers fruits. Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas vraiment. Ce que j'essaie de dire est que la fête des premiers fruits prophétisait la résurrection du Seigneur deux fois. La première fois, dans son principe, et la seconde dans l'événement lui-même, car Dieu s'est arrangé pour que coïncide la fête juive des premiers fruits et la résurrection de son fils. Après que la germe des premiers épis d'orge, des bons grains mûrs et bien ronds, ait été offert à l'Éternel, ont lieu les autres récoltes de céréales, froment, blé, etc. Ces moissons ont aussi une signification prophétique, car elles préfigurent l'ensemble des croyants de tous les temps qui, à la fin du monde, seront rassemblés comme une immense gerbe par les anges dans le grenier de l'Éternel, c'est-à-dire le royaume des cieux, comme l'explique Jésus quand il parle de la fin du monde. Je lis un passage. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Je continue le texte. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut. Dans sa première année, vous y adjoindrez une offrande de 6 kilogrammes de farine pétrie à l'huile qui, consumée par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin. Avant ce jour, vous avez apporté l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épi grillé ou grain nouveau. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations, partout où vous habiterez. Les Romains ouvraient l'époque des boissons en offrant des sacrifices à leur haut Dieu. Cet hommage de reconnaissance et de dépendance avait également lieu en Israël de la part du peuple de Dieu. Le jour de la fête des premiers fruits, quand le grand prêtre présentait en la balançant la gerbe d'orge, celle-ci était accompagnée d'offrandes végétales et d'un holocauste, signe de consécration des Israélites à leur Dieu. Par contre, il n'y avait pas de sacrifice d'expiation, c'est-à-dire pour le péché du peuple, parce que, comme je le répète, cette fête des premiers fruits annonce la résurrection du Christ. Cela sous-entend évidemment que sa mort a déjà eu lieu et donc régler le problème de la culpabilité de l'homme. Le texte précise que les Israélites ne devaient pas se jeter sur leur récolte comme la misère sur le pauvre monde, avant que la première gerbe n'ait été offerte au Créateur. Le Seigneur du ciel, qui fait briller le soleil, qui arrose la terre, qui fait pousser les fruits et légumes. Ce même attribut de reconnaissance et de dépendance est exprimé dans la prière de remerciement que les croyants offrent à Dieu avant de commencer un repas. Je continue le texte. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos, et vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Les ordonnances qui vont suivre sont de 3 ordres. Elles comprennent 3 prescriptions. D'abord, la première gerbe à offrir à Dieu. Deuxièmement, une offrande très conséquente à faire 7 semaines plus tard, c'est-à-dire pour la fête de la Pentecôte qui clôt les boissons. Troisièmement, l'ordre de laisser des épis sur place pour les pauvres. Le texte nous donne une séquence chronologique bien ordonnée. D'abord la Pâque, qui préfigure le sacrifice du Christ, puis la fête des premiers fruits, qui symbolise sa résurrection et qui se trouve à l'intérieur de la fête des pains sans levain, celle-ci symbolisant l'absence de péché chez Jésus-Christ. Ensuite vient la Pentecôte, mot qui veut dire 50, car elle a lieu 50 jours après la Pâque. Le nom Pentecôte se trouve dans les livres apocryphes et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, cette fête est appelée la fête des semaines, la fête de la moisson ou encore le jour des prémices. Dans l'esprit des Israélites, il y avait un rapport si étroit entre la Pentecôte qui clôturait les récoltes et la fête des premiers fruits qui marquait leur commencement, qu'elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Pour la Pentecôte, le grand prêtre devait également faire au nom du peuple une présentation, le balancement d'une gerbe de céréales devant l'Éternel. Dans nos pays de culture judéo-chrétienne, on célèbre la Pâque, la Pentecôte et autres fêtes religieuses par un jour férié, sans trop se soucier de leur signification religieuse. Au temps où les enfants allaient au catéchisme, ils savaient tous que la Pentecôte avait lieu 50 jours après Pâques, mais ce qu'on sait moins est qu'historiquement, la Pentecôte est le jour où l'Église de Jésus-Christ a commencé. Plusieurs passages du Nouveau Testament l'attestent. Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples, « Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Ces paroles ont littéralement été accomplies le jour de la Pentecôte. Je lis le passage. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Le Saint-Esprit a rempli les disciples de sa présence 50 jours après la Pâque. Au final, la Pentecôte juive, qui marque la fin de la moisson annoncée prophétiquement, en même temps, d'une part, la fin de l'ancienne alliance et donc du régime de la loi, et d'autre part, le début de l'Église et donc celui de la nouvelle alliance. À la veille de sa mort, quand Jésus a célébré la Pâque juive avec ses disciples, le texte dit « Il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je continue le texte du Lévitique. « Vous apporterez des lieux où vous habitez deux pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kilogrammes de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Ce jour de la fête de la Pentecôte, les Israélites doivent apporter une offrande qui consiste non en céréales, mais en pain. Ce qui est logique, puisque la moisson est maintenant engrangée. On peut alors mouler les grains qui ont été battus, puis les écraser et faire de la farine, la pétrir et l'utiliser pour confectionner toutes sortes de pains cuits à la maison. Ensuite, le grand prêtre les présentait formellement et rituellement devant l'Éternel au nom du peuple d'Israël, tout comme il l'a fait avec la gerbe d'orge lors de la fête des premiers fruits. Il se peut que ces pains ordinaires et levés que mangeaient les simples Israélites représentent le commun des mortels à qui la bonne nouvelle de Jésus sera proclamée par les apôtres. En effet, lorsque l'Église est née, les disciples du Christ ont commencé par annoncer la personne de Jésus à tous les Juifs qui se trouvaient de passage à Jérusalem à l'occasion de la fête de Pâques et des pains sans levain. Ces gens venaient vraiment de tous les coins de l'Empire. Je lis le passage. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fit-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Je continue le texte. Avec le pain, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut. Dans leur première année, un jeune taureau et deux béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. L'offrande des pains est un acte reconnaissant. Mais à ceci doit s'ajouter, comme dans le cas de la gerbe des premiers fruits, un holocauste en signe de consécration de tout le peuple. Les victimes sont alors particulièrement nombreuses, ce qui est la moindre des choses de la part d'un peuple qui vient de remplir ses greniers avec les produits de la terre que l'Éternel leur a donnés. Je continue. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et deux agneaux d'un an en sacrifice de communion. Le prêtre fera avec le pain des premières récoltes le geste de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les deux agneaux et reviendront au prêtre. Selon la loi, la Pentecôte est le seul moment de l'année religieuse où toute la communauté doit offrir un sacrifice de communion. En effet, habituellement, la victime immolée en action de grâce est offerte par un Israélite et mangée par sa famille. Mais comme ici, c'est le peuple qui la donne, il ne peut évidemment pas la partager et donc elle revient au prêtre. Le sacrifice d'expiation est un rappel au peuple élu qu'il commet fréquemment des fautes et donc qu'il est coupable devant Dieu. Ce qui est vrai pour l'Israélite l'est autant pour moi aujourd'hui. Par cet ensemble de rites imposés par la loi, toute la moisson, depuis les premiers épis d'orge jusqu'au dernier de froment, se trouve placée sous la bénédiction de l'Éternel. Et ainsi, chaque famille israélite reconnaît que son pain quotidien est un don que son Dieu lui donne et qu'elle partage avec lui. Pour les Israélites, la Pentecôte était une occasion de se réjouir des bienfaits du Seigneur qui pourvoit à tous leurs besoins. Cette fête comprenait beaucoup d'offrandes et surtout de nombreuses immolations d'animaux qui, comme toujours, préfigurent le sacrifice unique du Christ. C'est grâce à la croix et à la résurrection que l'Église a pu voir le jour. Aujourd'hui, les croyants sont exhortés à faire confiance à Dieu pour tous leurs besoins. Non seulement celui qui vient au Seigneur obtient la vie éternelle, mais il bénéficie également de son soutien, de son aide, de sa miséricorde, de son amitié, du réconfort et de réponse à ses prières dans les moments difficiles de l'existence. Je continue le texte. Ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations, dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord et vous ne glanerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez tout cela aux pauvres et à l'émigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ces ordonnances ont déjà été énoncées. La moisson doit être sanctifiée, non seulement par des offrandes de céréales et d'animaux, mais aussi par la bonté et la générosité à l'égard des indigents du pays, qu'ils soient israélites ou étrangers. L'Éternel, le Seigneur du ciel et de tout ce qui existe, est un Dieu très pratique. Même s'il a créé un univers démesuré, il est très terre à terre. Le peuple d'Israël doit prendre en charge les défavorisés, les pauvres, les veuves et les orphelins en particulier. C'est aussi le devoir des chrétiens, comme l'attestent de nombreux textes du Nouveau Testament. Je lis un passage. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours de quoi manger. Et voilà qu'un l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la loi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Bien sûr, il n'y a pas que la pauvreté matérielle qui est à prendre en compte. Nous savons tous qu'il existe des détresses plus douloureuses que le manque d'argent. Il n'est pas utile d'en faire la liste accablante. Le croyant a donc une double responsabilité envers ce que Dieu place sur son chemin. Il doit d'une part leur annoncer la personne de Jésus, expliquer la signification de la croix, et d'autre part, leur venir en aide d'une façon concrète et dans la mesure de ses moyens, s'ils sont affligés de quelque manière que ce soit. À ce sujet, le Nouveau Testament donne la définition de ce qu'est la vraie religion. Je la lis. Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Je continue le texte du Lévitique. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Parle aux Israélites et dis-leur, le premier jour du septième mois sera pour vous un grand jour de repos et, pour vous rappeler, à mon souvenir, de sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » On retrouve ici le chiffre 7, si courant dans les Écritures, à la mention du septième mois, est très importante, car avec trois fêtes, il est un peu considéré comme une mois de sabbat. D'ailleurs, le calendrier juif comporte aussi une année sabbatique. Tout comme la Pâque marquait le début de l'année religieuse, le septième mois marque le commencement de l'année civile. Le premier jour de ce septième mois, on en fait une nouvelle lune qui est aussi considérée comme une fête. Mais pour ce premier jour-ci, des ordonnances spécifiques sont prescrites parce que le septième mois est très spécial. En effet, il comprend trois grandes fêtes, dont le jour très solennel des expiations, aussi appelé Yom Kippour ou Grand Pardon. Voilà pourquoi le septième mois est si important et le premier jour si cérémonial. Un peu avant la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, depuis que les Juifs sont revenus de l'exil babylonien, ils célèbrent le premier jour du septième mois comme leur nouvel an. Mais ici, rien de tel n'est suggéré. Dans le texte, il est question de trompettes. L'Éternel dit « Vous vous rappellerez, à mon souvenir, ce sera un grand jour de repos et de sonnerie de trompettes. » Tout au long des textes sacrés, depuis les écrits de Moïse jusqu'à l'Apocalypse de Jean, on a souvent la mention de trompettes qui retentissent. Elles sont utilisées pour diverses circonstances, comme pour rassembler les troupes avant de partir en guerre. Le livre de l'Apocalypse mentionne sept trompettes qui sonnent à intervalles réguliers tout au long de cette période terrible de châtiment de la fin des temps qui s'appelle la tribulation et qui fait partie du jour de l'Éternel. Cependant, et comme je le rappelle de temps en temps, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seront épargnés par tous les jugements. Jésus lui-même a dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné. »